Les Grandes Gueules sur RMC avec Biofib. L'isolant en chanvre, idéal pour vos travaux de rénovation. Biofib, ça chanvre tout.
RMC, 9h midi. Les Grandes Gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les Grandes Gueules sur RMC, RMC Story, les Grandes Gueules avec notre trio du jour, Joël Dagosséry qui est coach de vie, Didier Giraud, agriculteur en Saône-et-Loire, et Thomas Porcher qui est avec nous, Thomas qui est professeur d'économie. Le foot, les amis, j'ai la feuille sous les yeux pour vous rappeler le mode d'emploi pour gagner des places et assister deux places et assister mardi prochain au match Paris Saint-Germain-Bayern. Et vous restez à l'écoute des Grandes Gueules et dès que vous entendez cette musique... Vous saurez à ce moment-là que vous aurez, ça peut intervenir à tout moment, en plein dans nos discussions, vous aurez 5 minutes pour m'envoyer foot par SMS au 732-16, foot par SMS au 732-16, 3 SMS par personne, 75 centimes d'euros le SMS, et peut-être que vous gagnerez les deux places pour assister à PSG Bayern Munich le 14 février prochain. À vous de jouer, à vous de gagner. On va parler des agriculteurs et des néonicotinoïdes.
RMC, les Grandes Gueules.
Les agriculteurs qui sont arrivés en tracteur aujourd'hui dans Paris, alors pour ceux qui sont devant RMC Story, ils sont passés devant notre bâtiment, et ce qui a valu à l'ami Didier Giraud d'aller les saluer, il est même monté sur un des tracteurs, Didier, il est allé les voir, ils sont vraiment passés à 10 mètres de notre bâtiment, et on est allé voir un peu quel était leur état d'esprit, comment ils se sentaient, parce que c'est un vrai combat pour eux, ce qui se passe en ce moment avec l'affaire des néonicotinoïdes.
Alors, les néonicotinoïdes, ce sont des insecticides toxiques pour les abeilles et interdits depuis 2018. Mais il y avait une dérogation depuis 2 ans. La France bénéficiait d'une dérogation, ce qui permettait donc de les appliquer préventivement sur les semences de betteraves pour les prémunir de la jaunisse, notamment une maladie virale propagée par des pucerons. Le problème, c'est qu'il y a une décision de la Cour de justice de l'Union européenne qui estime illégale cette dérogation, et la France s'est pliée face à la décision de la Cour de justice de l'Union européenne, et c'est ça qui déclenche la mobilisation, la décision du gouvernement, c'était le 23 janvier dernier, de renoncer donc à autoriser ces néonicotinoïdes. On a donc des centaines de tracteurs qui ont convergé vers Paris au petit matin. C'est la première fois d'ailleurs depuis 3 ans que les agriculteurs viennent manifester ainsi à Paris. On est à quelques jours d'ailleurs de l'ouverture du salon de l'agriculture. Alors à qui vous donnez raison? Est-ce que vous donnez raison aux agriculteurs qui disent que sans l'utilisation de cet insecticide, eh bien, certains vont devoir fermer la porte, ou plutôt les écologistes qui disent bah oui, bah à un moment donné, ce qui est mauvais pour la nature, il faut l'interdire, et notamment ce qui est mauvais pour les abeilles.
Didier, explication.
Je l'ai déjà fait à ce micro, mais revenir sur les néonicotinoïdes. Enfin, aujourd'hui, comment ça se passe? En fait, c'est un insecticide qui enrobe la graine de betterave, que t'enfouis dans le sol et qui la protège au stade plantule, hein, quand la plante est toute petite, contre les piqûres de pucerons qui transmettent une maladie et qui font jaunir les betteraves. Voilà, ça c'est le principe simple. Alors moi, on m'a toujours pas expliqué, j'ai toujours pas compris comment ça pouvait affecter les abeilles qui, elles, viennent butiner le pollen d'une plante qui est récoltée avant d'être en fleur. Voilà, la betterave, elle est récoltée avant d'être en fleur, quoi. Hein. Donc ça, j'ai toujours pas compris comment c'était nuisible pour les abeilles. Mais je pense que dans cette manifestation, il y a quelque chose de plus large qui s'exprime. C'est que, alors sous couvert de l'Europe, mais sous couvert de bien-être animal, sous couvert de vertu pour la planète, de temps en temps, on enlève un produit comme ça. Et il se trouve que, il y a des exemples sur un désherbant des endives. Il y a des alors certainement que ces produits sont nocifs, sauf qu'à un moment donné tu remets en cause toute une filière, quoi. Moi j'ai un exemple très concret. Il y a eu chez nous une pénurie qui sera peut-être jamais recomblée, peut-être que même le labo ne fabriquera plus un vaccin qui nous permet de vacciner les vaches, qui protège le petit veau contre des diarrhées néonatales, quoi. Et aujourd'hui on n'a pas d'alternative, quoi. Et ce que dénoncent les betteraviers avec leur tracteur là, c'est que si t'enlèves un produit, tu peux faire tomber toute une filière. Et projetons-nous un peu plus que ça. Quand tu fais tomber, c'est quoi les betteraves? La betterave française, elle sert à faire du sucre, quoi. Quand tu fais tomber la filière betterave sucrière en France et en Europe, puisque c'est une décision européenne. C'est quoi l'alternative? Eh ben, c'est simple. L'alternative, c'est du sucre de canne qui est planté sur la base de la déforestation plutôt en Asie du Sud-Est, c'est-à-dire en Indonésie, et qui est produit à base de pesticides avec de la main-d'œuvre quasiment esclave. Donc quoi.
Avec ce genre de décision, on se tire une balle dans le pied.
Moi, ce qui me gêne, c'est qu'on vienne à interdire des productions, alors qui certes ont peut-être un produit qui pose problème, mais vertueuses, sans alternative, et qu'on le remplace par un produit qui, à l'échelle de la planète, est beaucoup
quand
plus nocif.
Simplement, avant de donner la parole à Thomas, mais quand on parle de betterave, c'est pas forcément la betterave.
Non, c'est la betterave sucrière, là. Voilà. On est sur la production de sucre, alors.
Ça sert à quoi, ça, la betterave sucrinière? On en trouve où?
Dans tout le sucre, alors pas que le sucre blanc, tout le sucre qu'il y a dans la consommation.
Donc,
oui,
c'est
tu l'as
important.
Dit, ketchup, dans un petit pot de ketchup d'un kilo, c'est 22 morceaux.
Il n'y a pas d'alternative?
Non. Ailleurs.
Et le sucre de canne, il vient sucre de canne. Au néonicotinoïde.
Ah bah non, il n'y en a pas. Ouais.
Thomas.
Moi, je pense qu'il faudrait remettre à plat toute la filière agricole. Parce que il y a un vrai problème. Au-delà de ça, et là, je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire que il y a des gens qui font des principes sur des interdictions de certaines substances qui ont
des conséquences.
Un combat politique. Mmh. Sans voir les conséquences que ça peut avoir sur nos filières, sachant qu'on vit dans un espace mondialisé où on peut importer après des produits.
Un truc qui est pire.
Et voilà. Tout à fait. Donc, il faudrait revoir quand même toute la filière agricole. Moi, je pense que la mondialisation qui a profité au départ aux agriculteurs, parce qu'elle leur offrait des débouchés supplémentaires et qui les a amenés à faire des investissements, mais majeurs, très élevés pour augmenter leur productivité, aujourd'hui se retourne contre nous. Parce qu'il y a les pays émergents. Quand vous parlez, par exemple, aux producteurs de lait de Bretagne, ils vous disent, voilà, au début, on a fait des investissements pour produire du lait, etc. On a joué le jeu, c'est des investissements de long terme. Et puis, les prix du lait ont chuté quand la Chine est arrivée sur le marché. Mmh. Et là, qu'est-ce qui se passe pour nous? C'est la faillite.
Ouais.
Donc, il faut un peu revoir toute la filière et faire en sorte que la filière agricole française, elle permette la souveraineté alimentaire.
On est plus vertueux que les autres, il y a un effet boomerang.
C'est ça.
Harmonisation européenne, c'est déjà pas mal.
Oui,
J'ai connu il y a quelques années un désherbant contre les carottes, les carottes de consommation, qui a fait tomber la filière carotte, mais complètement, alors qu'en Espagne, ce désherbant était toujours autorisé.
C'est
un vrai problème. Quand au moins il y a une harmonisation européenne, tu peux gérer un marché intérieur.
C'est pareil pour tout le textile en France, a été tué aussi par un certain nombre de normes comme ça, alors qu'après on importait des produits du Bangladesh ou de la Turquie. Donc voilà.
Joël, et puis on va écouter Irvine, agriculteur en Vendée dans un instant. Il est viticulteur précisément.
Non mais moi je partage un peu l'avis de Thomas, c'est-à-dire que je suis pas pour qu'on maintienne une filière alors que ça détruit l'environnement. Mais par contre, ce que je reproche, c'est que j'ai l'impression qu'on prépare jamais, en fait. On a des combats qui sont environnementaux, mais on ne les anticipe jamais. On n'anticipe jamais ce que va devenir une filière, on n'anticipe jamais...
Les conséquences des décisions.
Voilà, ce que va
les
devenir
discussions,
un
elles ont été longues
secteur,
quand même.
D'accord. On discute, mais il n'y a pas d'alternative.
Oui.
Quoi, parce
oui.
que... Qu'est-ce que tu vas dire à des agriculteurs? C'est quand même des gens qui vivent de leur travail et qui nourrissent leur famille grâce à ça. Donc, qu'est-ce que tu vas leur dire? Arrête cet insecticide et c'est terminé. Non, je crois vraiment que je pense que dans le temps, il va quand même falloir apprendre à chercher une solution avant d'appliquer une sanction. Si, parce que c'est un peu vu comme ça. C'est un peu vu comme une sanction.
Ouais. C'est-à-dire qu'on ne devrait pas sanctionner sans plan B, quoi.
Ouais, Irvine, bonjour.
Oui, bonjour.
Viticulteur, Irvine en Vendée.
J'habite en Vendée, mais je suis viticulteur dans la Loire-Atlantique.
Je me disais le vin vendéen.
D'accord.
Il y en a.
Oui, vraiment.
Oui. Oui. Mon cher Irvine, est-ce que vous êtes aux côtés de vos collègues agriculteurs, là ou pas, là, qui manifestent?
Oui, je suis à leur côté. Et puis, comme disait Joël, c'est une honte de vouloir interdire un produit sans avoir aidé la filière à faire une transition.
Mais c'est bien de l'interdiction des néonicotinoïdes?
Si c'est un produit qui est toxique, enfin, à bout d'un moment, il faut l'interdire. Moi, je bosse dans le bio. Dans un domaine, ça vous a pris presque 10 ans pour convertir tout le domaine, pour adapter l'outillage, les traitements et tout le reste. Ça se fait pas du jour au lendemain. Donc, je comprends ces agriculteurs qui se retrouvent le bec dans l'eau parce qu'il y a des petits bureaucrates qui savent pas comment ça se passe sur le terrain.
Alors c'est pas les bureaucrates, c'est des lobbying aussi.
C'est des lobbying.
Et c'est des gros lobbying cachés dans les petits bureaux
Bruxelles.
Ils savent pas comment ça se passe sur le terrain. Enfin, excusez-moi, ces écolos-là, quand est-ce qu'ils ont été sur le terrain avec les mains dans la terre? Jamais. Ils savent pas ce que c'est de conduire un tracteur, de passer des journées dans le froid sur un seuil de plomb. Jamais. C'est les bureaux climatisés. Et après, ils s'étonnent que les agriculteurs soient pas contents, soient les pollueurs.
Mais je comprends, Irvine, vous êtes viticulteur, vous passez de tous les pesticides, maintenant vous n'en utilisez plus?
Non, moi je suis en bio, moi j'utilise aucun pesticide. Mais et aucun herbicide. Et ça prend énormément de temps pour adapter le matériel pour.
D'autant plus que chez vous, vous êtes quand même sur un climat océanique. Et le problème de la viticulture, c'est quand même l'humidité. Si on ne doit pas traiter, c'est quand même l'humidité. Donc trouver des alternatives sur la façade atlantique à la viticulture bio, c'est quand même compliqué.
Carrément. Après, il y a des produits dans le bio qui existent, qui aident, mais c'est beaucoup plus d'heures de travail que dans le conventionnel.
Ok, merci d'avoir été avec nous, Irvine. Bonne journée.
Bonjour à vous aussi.
À bientôt, monsieur le viticulteur. Raphaël Rémy Leleu est avec nous. Elle est élue Europe Écologie Les Verts. Bonjour, madame Rémy Leleu.
Bonjour.
Que pensez-vous de cette manifestation des agriculteurs aujourd'hui, alors?
Que c'est une manifestation de la part de certains agriculteurs, avec toujours la même ligne de défense, c'est de refuser d'adapter le modèle agricole. Et je trouve quand même assez hallucinant, finalement, que l'une des grandes réclamations du jour, ça soit de pouvoir continuer à épandre du poison sur certaines cultures.
C'est du poison, les néonicotinoïdes?
Oui, bien sûr. Et en fait, il y a un vrai consensus scientifique autour de ça. C'est un poison pour les abeilles, pour les insectes. Ça s'infiltre dans le milieu naturel. Et il n'y a pas de surprise. Ça fait plusieurs années que la France s'est engagée à arrêter avec de tels produits. La France a été condamnée par l'Union européenne parce qu'on était en retard. Là, il faut vraiment penser à la
Mais on le remplace pas. Madame Leleu, j'ai une question
parce que j'ai compris que techniquement, vous avez lu des études qui techniquement disent que ça tue les abeilles. Moi, j'ai pas compris comment l'enrobage d'une graine, lorsqu'on récolte une plante qui n'est pas en fleur, ça peut tuer les abeilles. Mais allez, non, partons de ce principe-là, je vous l'accorde. Expliquez-moi, l'alternative, elle est où? Non mais l'alternative, elle est où? Quand on aura fait tomber la filière sucre en France et en Europe, vous préférez qu'on ait du sucre de canne qui vienne d'Indonésie? C'est mieux?
Didier est agriculteur, celui qui vous parle, madame Rémy Leleu.
Ok, parfait. Vous savez, je viens du nord de la France, donc non, faire tomber la filière sucre, ça m'intéresse pas véritablement.
Mais et comment on fait quand on n'a plus ça pour traiter les betteraves?
Eh bien, vous savez quoi? J'ai écouté aussi ce qu'a dit Irvine juste avant moi. Il disait que l'adaptation du modèle agricole, des outils, des cultures, ça nécessitait beaucoup d'heures de travail. Eh bien, ça tombe bien. Donc, au contraire de tout le discours de la FNSEA, ça veut dire qu'on peut créer des emplois dans l'agriculture et dans l'agriculture durable.
Mais madame, quand les gens veulent pas aller travailler dans un hôtel, alors trouvez-moi les gens qui iront désherber des betteraves à la main, quoi. Hein. Vous savez ce que c'est que de désherber des betteraves à la main, madame? Désherber des betteraves à la main, c'est un bagne, quoi. C'est un bagne.
Et donc vous préférez épandre du poison? Et
non, mais enfin, dire on va remplacer les néonicotinoïdes par de la main d'œuvre, madame, c'est quand même être sacrément déconnecté du terrain.
Quels sont les moyens? Oui, mais précisément.
C'est un discours.
Attends, tais-toi, Didier, parce qu'on ne comprend rien si tu parles en même temps. Quels sont les moyens précisément?
Mais ne serait-ce que tout le développement de la filière bio, ça existe.
Donc on désherbe des betteraves à la main. Comment on fait pour désherber des betteraves?
C'est toute la limite en fait de votre démarche, c'est-à-dire que en fait vous dites, et vous avez peut-être raison, c'est pas bon pour les abeilles, mais j'ai pas de plan B en fait. Ou alors c'est de revenir à l'agriculture, effectivement, qui ressemblait à un travail de bagnard, c'est-à-dire.
Et plus personne ne veut aller dans les champs déjà aujourd'hui, madame Rémy Leleu. Donc il y a toute une filière qui disparaît.
Ça va pas dans le sens comme du progrès du travail.
Alors, allez-y.
En fait, le modèle qui est en train d'être proposé, où on a une agriculture qui est industrielle et qui utilise des produits dangereux, ça ne peut pas être attractif. Et d'ailleurs, enfin, moi, ce qui est quand même assez étonnant, c'est que ça fait plusieurs années qu'on dit qu'il faut sortir de ces produits dangereux. Pourquoi on a...
Parce que vous ne proposez pas de d'alternative.
Quand vous aurez fini vos éléments de langage, madame, expliquez-moi comment on fait des betteraves bio, quoi. À part des esclaves qui désherbent à la main les betteraves, je ne sais pas faire, quoi. Et je suis pas betteravier, mais expliquez-moi.
Vous pensez vraiment que ces conditions de travail en utilisant des produits dangereux pour toute la main-d'œuvre agricole, c'est
je dis pas
c'est
que c'est la panacée, les gens qui ont des arbres fruitiers ou des légumes, ils sont obligés d'aller chercher des roumains pour ramasser les légumes ou les fruitiers. Ils arrivent pas à trouver autre chose comme main-d'œuvre. Alors désherber des betteraves à la main, franchement, je vois pas qui va le faire.
Est-ce que d'autres pays européens ont interdit les néonicotinoïdes?
C'est là où est ma question, parce que j'ai la sensation que non.
Pardon?
Justement, la France a été punie par la Cour de justice européenne parce qu'on n'avait pas appliqué. Ouais.
Donc c'est le triomphe du sucre de canne, c'est-à-dire qu'on ira acheter ailleurs notre sucre. Eh oui, parce qu'on n'est pas dans un monde fermé. C'est-à-dire que ces décisions, c'est formidable si on était dans un monde clos. Mais c'est pas vous préférez, c'est que préférez, à un moment donné, pardon, c'est bien d'avoir des positions de principe. Après là, il y a une réalité.
Non, pas uniquement de principe. Si, elle est pour préserver parce que à la fois les filières agricoles durables.
Mais non, vous la préservez pas. Vous la tuez.
Et elle est pour préserver la santé. C'est quand même délirant.
Mais non, mais parce que vous n'êtes pas capable.
Pour la défense des produits toxiques.
Parce que vous n'êtes pas capable de nous dire ce qu'on va remplacer par quoi. Vous ne nous dites pas par quoi on va remplacer, sauf le travail humain. C'est-à-dire qu'on va désherber à la main.
J'ai l'impression d'avoir les discours sur l'amiante il y a quelques décennies. Sérieusement en train de dire non, on ne va pas remplacer les produits toxiques, on ne va pas trouver de solution.
Non, c'est vous, qui n'avez pas de solution.
C'est dingue.
Vous n'avez pas de solution. Et vous ne pouvez pas, chez Europe Écologie, en même temps nous parler du droit à la paresse et dire que les agriculteurs ils vont devoir travailler le double d'heure à la main, pour remplacer ce qu'ils utilisent.
Ah, j'ai jamais dit qu'il fallait travailler double d'heure. J'ai dit que au contraire des arguments de la FNSEA,
mais non, mais c'est ça.
Il y a des filières de création d'emplois dans l'agriculture.
Oui.
Oui, c'est ça.
Mmh. Je serais curieux de voir les candidats. Quand tu cherches un mec pour t'occuper des vaches, t'arrives pas à trouver. Alors pour les
betteraves. Merci Raphaël Rémy Leleu, élu Europe Écologie Les Verts. La discussion à Paris va continuer dans un instant, justement sur quelle alternative pour les néonicotinoïdes. Et on a un agriculteur, tiens, Denis, qui va nous appeler de l'Aude et qui comprend pas ses collègues qui viennent manifester en tracteur. Alors, il va y avoir un dialogue avec toi, mon cher Didier. À tout et Joël aussi a deux trois petites choses.
Ça veut dire betteravier, ça serait bien qu'il nous appelle aussi.
À tout de suite avec les GG.
RMC.
9h midi.
Les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
On est en pleine discussion là sur l'agriculture. Quel modèle d'agriculture voulons-nous avec l'interdiction des néonicotinoïdes par l'Union européenne? Ça risque de mettre à mal la filière de la betterave. Alors, non pas de la betterave rouge. Il y a un grand débat d'ailleurs en ce moment dans les grandes gueules, c'est qui aime la betterave rouge.
Ah non, pas mauvais. Ah non. Moi j'aime bien. Ouais.
T'aimes bien?
Ah oui.
Olivier.
Moi c'est des souvenirs, des cauchemars de cantine.
La petite barquette blanche.
Fanat de la betterave non plus. Joël.
Ah non, moi la cantine ça m'a traumatisé la betterave.
Et Didier, la betterave rouge.
Je la mange sans problème.
Bon, alors en régie, j'ai fait un sondage en régie, c'est 100% pro betterave rouge.
Mais du coup, c'est pas de ça qu'on parle. Non, c'est du sucre venu de la betterave. Et c'est Denis qui va en parler avec nous. Bonjour Denis.
Oui, bonjour.
Bonjour Denis. Bonjour. Alors, est-ce que vous pourriez être en tracteur avec vos potes agriculteurs là ou pas?
Ah non, pas du tout, non. Non. Non, non. C'est pas du tout ma tasse de thé. J'ai arrêté tous les produits chimiques et l'agriculture intensive il y a 10 ans. Et il y a des alternatives. J'entendais tout à l'heure que vous disiez qu'il n'y avait pas d'alternative. Bien sûr qu'il y en a, puisque j'en vis de mon métier. Donc,
vous faites des betteraves?
Bien même. Non, ah bah, mais...
On parlait de ça précisément. Hein.
Oui, mais c'est comme toutes les cultures. Je fais aussi des lentilles, par exemple. Mais celui qui fait des lentilles et qui fait lentille sur lentille tous les ans, il va être obligé de traiter. Parce qu'il y a les bruches qui arrivent, il y a des pucerons, il y a plein de maladies. Mais qu'on fait des rotations longues. Faut pas. Celui qui fait betterave sur betterave et qui fait que ça, ou que du maïs sur maïs, il va avoir des soucis, c'est sûr. Mais il faut travailler avec des sols vivants.
D'accord, Denis, mais comment... si je comprends bien, Denis, vous êtes dans une démarche d'agriculture biologique. J'entends bien ce que vous dites. Après, on est d'accord. On peut être d'accord, Denis, qu'il y a des productions en biologique, c'est compliqué, quoi.
Mais c'est compliqué. Si on garde la même façon de cultiver, c'est impossible, même, en bio.
On est d'accord.
C'est impossible. Il faut modifier sa façon de cultiver.
Non, mais personne, dans l'agriculture, je pense que personne ne refuse l'adaptation. Il y a deux enjeux. Il y a un, d'avoir une alternative à un produit.
Oui.
Si c'est une alternative technique telle que vous nous la décrivez. Et puis deux, il y a un enjeu d'autosuffisance alimentaire, quoi. Je pense que dans un monde mondialisé, ce que l'on ne produit pas avec des normes aujourd'hui qui sont plutôt assez élitistes en France et en Europe, c'est produit ailleurs dans le monde avec des normes à la fois sanitaires, à la fois environnementales, à la fois gustatives, à la fois tout d'ailleurs, même sociales, qui sont à des lieux complètement opposés de ce qu'on fait chez nous, quoi.
Oui, mais c'est pas parce qu'ils produisent de... Enfin, excusez-moi, mais de la merde. Allez.
Ah, ça a coupé. Ah, mais...
Donc, oui. On doit bien produire et on peut bien produire. Moi, je produis.
Oui, mais on nourrit qui avec ça
Alors, des Joël.
Non, mais... Le vrai souci, c'est la consommation. Je veux dire, on peut mieux produire, effectivement, mais est-ce que la consommation de sucre baisse? Parce que si elle ne baisse pas, on va être amené, comme le dit Didier, à importer du sucre.
Mais il faudrait qu'elle baisse, d'ailleurs.
Donc, justement, c'est pour ça que je dis que faire une politique juste avec une idéologie, ça, c'est pas une politique. Il faut voir tous les paramètres. Soit on éduque la population et on se dit, on mange un peu moins de sucre parce que nous, en fait, on va baisser notre production de betteraves sucrières parce qu'on veut plus de nicotinoïdes et du coup, on va en importer moins. Là, t'as un vrai résultat. Et je sais que c'est un petit peu pointilleux comme politique, hein.
Non, mais c'est une réflexion à avoir. C'est quel type d'agriculture on veut garder en France? Non, mais
les gens qui tapent sur le modèle, c'est le sucre, il sert aussi une industrie agroalimentaire qui fait une bouffe industrielle.
Exactement,
quoi.
C'est ça. Mais ce qu'elle disait, la députée, ouais. Elle parlait d'industrialisation.
La maire adjointe,
en réalité,
de Paris,
elle n'est pas députée encore.
Ah, okay. Donc elle, ce qu'elle veut, c'est arrêter une agriculture industrielle. C'est oui, ce qu'elle veut.
Il faudra nourrir les gens quand même.
On est sur quelque chose de la décroissance, de manger moins. C'est pour ça qu'elle ne cherche pas une solution, c'est qu'elle est sur autre chose.
Après, moi, je veux bien écouter tout ça, mais les lentilles à Denis, là, qui sont produites dans l'Aude, de façon
Denis.
Biologique,
la capsule Apollo et les lentilles
avec
de
quelque
Denis.
Chose de super bien maîtrisé pour arriver à produire des lentilles. Je suis pas sûr que partout dans le 93 on puisse se les payer, quoi.
Voilà. Oui, bah.
Ouais, non, mais le
coup. Oui, mais.
Ah, non, allez-y, mais... allez-y, Denis.
Non, mais c'est sûr voilà. Qu'après il y a un prix quand même qui ressort un peu plus élevé que l'on a dit.
Mais ça, on est d'accord.
Parce que je pense que si jamais
ça, on est d'accord, Denis. Mais les autres, on leur donne quoi à manger?
Si on fait le désherbage des betteraves à la main. En France, pour maintenir la filière.
Le sucre, il s'en mangera moins et il coûtera pas le même prix.
Oui.
Mais c'est ça le problème, Denis. Moi, je suis d'accord avec tout ce que vous dites, bien
faut
entendu.
Que les systèmes coexistent.
On a envie de moins polluer les sols, de moins polluer les aliments. Le problème, c'est qu'on prend des décisions d'interdiction avant même de réfléchir aux conséquences et de proposer aux agriculteurs une alternative. Parce que si l'alternative pour les agriculteurs, c'est d'être moins nombreux à travailler, parce qu'ils ont, ils ont plus assez de production, d'être obligés de travailler plus, comme des chiens parce que il faut désherber à la main. Sincèrement, je vois pas le progrès humain.
Non, mais puis,
je vois pas alors, le progrès. Tiens, j'ai un petit message. J'ai un petit message
à dire aujourd'hui.
Je remercie Denis.
Celui qui fabrique du ketchup avec 22 morceaux de sucre dans son tube là, il va pas changer sa composition chimique parce qu'il y a plus de betterave en France.
Il
quoi,
ira chercher ailleurs.
Il va continuer à mettre autant de sucre. Alors si on impose à ce mec-là de mettre moins de sucre dans son ketchup, ok, mais c'est pas le cas aujourd'hui.
Je remercie Denis d'avoir été avec Thomas Porcher.
Mais il y a aussi moins d'agriculteurs parce que la FNSEA elle défend également un modèle. Je suis pas sûr qu'il convienne aux agriculteurs. C'est-à-dire le fait que les agriculteurs soient dans cette situation, qu'ils ont augmenté leur productivité, qu'ils ont fait des investissements, mais qu'ils ne gagnent pas plus.
Non, mais on est d'accord.
C'est un vrai problème, ça. Un vrai problème. Et il faudrait peut-être commencer par là. C'est-à-dire que si on veut des filières équitables, etc., qui auront des coûts beaucoup plus élevés. On ne peut pas exposer les agriculteurs à la concurrence internationale. Sinon, ils sont morts.
Ouais, mais tu ne m'as pas dit qu'est-ce qu'on donne à manger aux autres.
Hein. Non, bien sûr. Attends, je suis entièrement d'accord avec toi.
Parce que du poulet de 35 jours pour mettre dans la cantoche du coin, il en faudra
mais
encore.
Bien que la finalité de donner un poulet à 1,50€ qui n'a pas vu le jour, qui s'est chié dessus, et qu'on donne ça aux pauvres en leur disant c'est génial, mangez ça tous les jours, je ne suis pas sûr que ce soit la solution aussi. Mais je suis d'accord avec toi.
Il y a toujours pas d'alternative, quoi.
J'ai un petit SMS
qui vient d'arriver là. Il dit bonjour les grandes gueules. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la plupart des pays européens autorisent encore l'épandage des néonicotinoïdes. Oui. Nous, c'est une loi de 2015 qui l'interdit. Donc la France est bel et bien le seul pays européen qui interdit la totalité des néonicotinoïdes. Ouais. Et c'est signé Jean-Baptiste Moreau.
Ah, ben oui.
L'ancien député de la Creuse, l'agriculteur, qui était à l'origine de la dérogation qu'avait eue la France en 2019, qui écoute les députés.
Oui, il a raison, Jean-Baptiste, c'est que une fois de plus, au sein même de l'Europe, on est condamné par l'Europe pour un produit qui est autorisé à l'extérieur de notre pays.
Alors, je voudrais qu'on aille voir un betteravier, justement.
Parce que c'est la dérogation qui est légale.
Oui. On a un betteravier qui est avec nous, qui nous appelle de l'Aisne. C'est Mathieu. Bonjour, Mathieu.
Bonjour, les grandes gueules.
Alors, est-ce que vous n'êtes pas avec vos collègues en tracteur, là?
Non, j'étais déjà vendredi. On a fait une action aussi autour de l'éthanol, parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tous les écolos de salon, comme Madame Leleu, qui nous donne des conseils, on voit qu'ils sont très loin de nos bases. Ils n'imaginent pas la démarche qu'on a déjà en termes de circuit court chez nous. Pour faire simple, on produit des betteraves aujourd'hui, et dans la betterave, c'est comme dans le cochon, rien ne se perd. C'est-à-dire qu'on produit du sucre, mais on a aussi des sous-produits, ce qu'on appelle les pulpes de betterave. Ces pulpes de betterave, elles permettent de nourrir des animaux. Donc chez nous, en circuit local, au lieu d'importer de l'alimentation qui va venir du Brésil ou je ne sais trop où. Donc si vous voulez, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que tout se tient. Et les pulpes, elles sont déshydratées dans des usines qui tombent de la moitié de l'année. Donc l'autre moitié de l'année, on travaille avec de la luzerne. Donc demain, au-delà de la culture de la betterave, si la betterave tombe, c'est aussi la filière des pulpes qui tombe. Donc c'est l'alimentation des bovins qui va prendre un gros coup. C'est la luzerne qui va peut-être tomber aussi. Donc ça sera... Enfin, ce qu'il faut comprendre, c'est que parfois... Le mieux est l'ennemi du bien, quoi. C'est qu'on veut toujours faire plus, mais on ne voit pas les conséquences qu'il peut y avoir.
Et est-ce que vous pouvez nous rappeler, Mathieu, c'est quoi la législation sur les néonicotinoïdes dans les pays d'Europe ?
Mais moi, c'est très simple. Les néonicotinoïdes appliqués en aérien, je suis contre, effectivement, c'est néfaste contre les abeilles et contre les pollinisateurs. Il n'y a pas de débat là-dessus. Par contre, appliqué dans un enrobage de semences avec des quantités qui sont bien moins importantes, parce qu'aujourd'hui, des néonicotinoïdes, on en a dans les petits bracelets qu'on met autour des coups des animaux, des chiens, des chats contre les puces, hein, faut se le dire. Donc aujourd'hui, tous les gens qui mettent des bracelets anti-puces chez eux, ils ont des néonicotinoïdes. Nous, on l'utilise à des doses qui sont beaucoup plus faibles. Et aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est vraiment cet enrobage de semences et on est certain qu'il n'y a pas d'abeilles qui vont aller dessus. Alors, je veux dire, on a une conscience en tant que producteur. Moi, je suis... j'ai des enfants...
Et pourquoi la France, finalement, cède
Est la seule condamnée.
Mais qu'est-ce que vous voulez quand vous dites insecticide tueur d'abeilles? Vous avez tué le débat, c'est tout.
Eh oui, bien sûr.
Mais pourquoi on est condamné? Pourquoi on est condamné alors par l'Union européenne?
C'est la dérogation, je pense.
Qu'est-ce qui fait que les autres sont pas condamnés et que nous sommes condamnés? Ça, c'est une question vraiment.
C'est pas nous qui sommes condamnés, c'est qu'il y a une décision européenne. Il y avait un litige entre la Belgique et l'Europe, en fait. Et en fait, donc, du coup, pour mettre fin à toute discussion, l'Europe, en fait, a rendu un accord contre ce qui se passait en Belgique. Et finalement, ça s'impose à nous tous. Donc voilà, mais il n'y a pas... Et pour revenir sur ce que je disais, vous en parlez aujourd'hui, il y a très peu d'apiculteurs professionnels. Moi, j'en parlais qu'un apiculteur professionnel, vraiment quelqu'un qui est en Île-de-France, qui travaille énormément, qui nous dit, mais ils ne se rendent pas compte qu'en vous interdisant... On a aujourd'hui, on met des doses très faibles de produits phytosanitaires. On a encore une fois une conscience professionnelle. Et il le disait, si demain vous avez, il y a des filières comme le colza, on avait des risques sur le colza. Il me le disait, si demain il n'y a plus de colza une partie de l'année, je vais manquer de fleurs pour mes abeilles. Il faut faire attention parfois à certains apiculteurs qui sont pas professionnels, qui sont amateurs et qui mettent ça sur le dos des pesticides, alors qu'en réalité, la perte des abeilles, en premier lieu, c'est la destruction d'habitat, le varroa. Enfin, il y a multifactoriel en fait. Et le problème, c'est que voilà, on dit insecticide.
Oui, c'est le chiffon rouge.
On va s'utiliser et on tue le débat.
Mais moi, j'aimerais bien savoir ce que notre ministre de l'agriculture.
Il est nul.
Et moi, d'accord, bien, moi.
Pourquoi il est nul. Il se couche. Il va pas rester très longtemps. Il est nul. Je vous le dis. Autant avant, on avait quelqu'un, Julien de Normandie, qui avait vraiment.
Monsieur Fesneau, Marc Fesneau,
le modem. C'est lui, il est nul, Marc Fesneau?
Mais il tient pas la route. Il est déjà en train de chercher un poste pour se planquer aux prochaines élections européennes.
Julien de Normandie était mieux?
Mais Julien de Normandie, il a fait Grignon, il a fait une école d'agronomie. Oui. C'est lui qui a expliqué aujourd'hui. Vous voyez, pareil, on caricature le glyphosate. Le glyphosate, aujourd'hui, moi, il me sert. J'en utilisais pas avant. J'en utilise depuis que je suis en transition vers l'agriculture de conservation des sols. Parce qu'aujourd'hui, j'ai vocation à moins travailler mes sols pour justement libérer moins de carbone et préserver le potentiel agronomique de nos sols. Parce qu'on veut trop nous faire croire que le conventionnel, c'est pas bien, le bio, c'est bien. Mais il y a aussi des voies médianes. Mais le problème, c'est qu'on vulgarise pas assez.
Et qu'on a en face de nous, Mathieu, quand même, très régulièrement, des gens comme Madame Rémy Leleu, qui sont sur les éléments de langage et sur la doctrine.
Et qui est d'ailleurs incapable, quand tu lui as posé la question, est-ce qu'il y a d'autres, est-ce qu'il y a des alternatives?
Sur les betteraves, il n'y a pas.
Il n'est pas capable de nous répondre.
Mathieu, merci d'avoir été avec nous, Mathieu. Merci de vos explications claires et nettes. Qu'est-ce qu'on veut garder comme agriculture en France? C'est le vrai débat quand on voit en plus que la filière viande, elle est en train de mourir, hein. À petit feu, on aura bientôt plus d'exploitation.
Ça, c'était le revenu.
La filière betterave qui va claquer
et
aussi.
La pyramide des âges.
Et après, on fera des débats en disant.
Où est passée notre agriculture?
Où sont passés les agriculteurs? Ouais. Parce que le nombre d'agriculteurs
pêche avec elle. Et puis, le débat d'après, c'est qu'est-ce qu'on mange? Exactement. Et comment c'est produit?
Et bon, ça vient d'où? Des insectes.
Alors, les acteurs dans Paris, est-ce que vous soutenez les agriculteurs, là, dans leur combat? C'est un oui quand même un oui à plus de 77%. Vous avez le soutien de l'opinion.
Il y a un fort lobby quand même grâce au GIGI. En Europe, écolo contre tout ça.
Ouais, bien sûr. Allez, dans un instant, les indiscrets GG, Laurent Berger, le numéro 1 de la CFDT, qui devient le nouveau héros là, des sociodémocrates. Ouais. Et puis on aura le quiz des GG. Alors attention, ça va être un quiz musical. Ma chère Joël, c'est toi qui vas être mise à l'épreuve.
RMC, 9h midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story, les grandes gueules tous les jours avec vous au 32-16. Ah, j'ai oublié le à vous de choisir. Alors, je sais que ça vote en ce moment sur notre site internet rmc.fr, mais à vous de choisir de quoi voulez-vous que l'on parle ensemble, de ce propriétaire qui ne peut plus vendre sa maison parce qu'elle est squattée, ou bien d'Adrien Quatennens qui s'est fait huer à l'Assemblée nationale hier. Est-ce que c'est mérité? Vous continuez vos votes et puis ensuite on en parle avec vous à 11h au 32-16. En attendant, c'est les indiscrets.
RMC, les grandes gueules.
Les indiscrets.
Indiscret GG avec Hélène Terzian du service politique d'RMC. Bonjour Hélène.
Bonjour à tous.
Alors Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT, est invité d'RMC, de BFM TV, d'Apolline de Malherbe ce matin. C'est le nouveau héros, voire l'espoir des sociaux-démocrates.
Oui, que de louanges à l'évocation de son nom de la part des socialistes. C'est un type brillant selon un député, un homme raisonnable, écouté, capable de parler aux plus grands et aux plus petits d'après un sénateur. Sur le front des retraites, tous saluent bien sûr son rôle clé dans le front syndical uni. À tel point que même dans l'entourage de François Hollande, on dit que c'est lui le chef, c'est lui aujourd'hui qui porte les idées social-démocrates en France. Pour un éléphant du PS, c'est même l'union entre le mouvement social et le mouvement politique. Alors, de là à dire, Laurent Berger pour 2027, bien figurez-vous qu'un ténor du PS le classe clairement dans la catégorie des présidentiables. Il dit que ce serait un bon candidat pour la gauche. Une bonne hypothèse aussi, selon un proche d'Anne Hidalgo, oui. Dans le camp macroniste, on plaisante hein, doucement quand je leur pose la question. J'ai soumis l'idée à un député Renaissance, il m'a quand même répondu c'est le 1er avril, Hélène, pourquoi vous me posez la question? Bon, quand même, un proche d'Emmanuel Macron l'a toujours dit, ça je peux vous le dire, Laurent Berger ne fait pas de syndicalisme, il fait de la politique.
D'accord, mais enfin, de leader syndical à candidat à l'élection présidentielle, il y a un écart assez grand.
Il y a un grand pas. Encore faut-il qu'il en ait envie, c'est un chemin de croix, admet un baron socialiste. Son nom, il avait d'ailleurs circulé, peut-être que vous en rappelez, pour 2022, lui qui était à l'initiative de ce qu'il avait appelé un pacte pouvoir de vivre avec des propositions pour peser dans le débat présidentiel. Mais il avait fermé la porte à ce moment-là, nous rappelle un responsable socialiste. Certes, son mandat à la tête de la CFDT va bientôt s'arrêter, mais... pour l'instant, sa priorité, c'est de gérer la mobilisation sur le front des retraites. Voilà, un sénateur PS admiratif se rend quand même à l'évidence. Il dit, il n'a jamais été élu, ni localement, ni il n'a dirigé dans l'exécutif. Pourtant, il y a des exemples d'anciens leaders syndicaux qui sont devenus chefs d'État à l'étranger. Il y a Lula au Brésil, il y a eu Lech Walesa en Pologne, il y a eu aussi un ancien premier ministre suédois, dont je ne vais pas prononcer le nom. Je crois que c'est Löfven. J'avais regardé, mais un sénateur socialiste veut tout de même rester réaliste. Il calme un peu nos ardeurs. Il dit qu'il voit surtout l'hypothèse Berger 2027 comme un symptôme, en fait. Il dit que ça montre que le PS doit se reconstruire en occupant son espace politique plutôt que de l'abandonner en se collant à LFI. Façon d'admettre à demi-mot ce désert aujourd'hui dans le couloir des sociodémocrates.
Tu parles de quel PS là? Du PS,
PS de
fort ou du PS
des éléphants?
Ouais, là c'est l'autre PS quoi, celui qui est contre la NUPES.
Exactement.
D'accord. Ok, alors là, ce qui est marrant de ce côté-là, c'est dès qu'un mec commence à un peu bien parler et qu'il n'est pas trop à la gauche de la gauche, il est potentiellement
présidentiel.
Président. Donc là, c'est le moment Berger, parce qu'il est effectivement très bon, on l'a vu ce matin. Puis il y a deux ans, c'était le moment de je sais pas qui. Puis dans deux ans, ce sera le moment de je sais pas quoi. Donc c'est un peu ça, quoi. Dès que quelqu'un parle un peu bien, il peut sauver cette partie-là du PS qui a du mal à rebondir.
Laurent Berger.
Il parle un peu bien et ils sont aussi orphelins de leader, mais d'idées. Enfin, je veux dire, il parle un peu bien et il a des fois il met des choses quand même un peu sur la table, ce que ne fait plus le PS depuis un certain moment. Donc, effectivement, on va pas leur en vouloir quand même de chercher quelqu'un.
Tu crois, toi, Laurent Berger? Président?
Et au
la
gauche?
Non, parce que j'ai conscience que être président, c'est pas juste avoir des propositions, tu vois. Donc aujourd'hui, je le vois pas comme ça, mais pourquoi pas? Mais on va pas leur en vouloir, en fait, de chercher un leader, après Hollande, quoi.
Le leader syndical, ça fait pas président. fût-il bon. Bah oui. Enfin, moi, je pense que...
Il y a des leaders syndicaux qui sont devenus ministres.
Alors, ministre,
notamment dans l'agriculture.
C'est quand même plus facile d'être ministre dans ton domaine d'activité que de devenir président de la République. À mon avis, il y a un gap là qui est quand même important. Et derrière ça, je pense que cette fameuse gauche, elle a quand même du mal à admettre, et il faudra bien qu'elle admette un jour, que la social-démocratie, elle est siphonnée par Macron et qu'elle est incarnée par Macron.
Oui, mais Macron,
et
il va,
Mais on retrouvera pas le PS tel qu'il a existé, qui prend un bout de la NUPES et puis un bout de Macron. Quoi.
Merci Hélène.
T'auras plus.
Merci de cette hypothèse, Laurent Berger, qui nous aura fait discuter. Allez, on y va pour le quiz des GG.
C'est l'étoile du berger.
En direct du plateau 3 d'RMC, les GG vous présentent le quiz des grandes gueules.
Doucement, monsieur Gerbier.
Il est fougueux, ce Gerbier.
Qu'est-ce qui se passe-t-il? On approche de l'heure. Il est moins 10.
Écoutez. Alors, que ça va ou pas?
Oui. Alors, tu sais qu'on a, chauffé Joël, hein.
Ouais.
Si je puis dire.
Entendu.
Tu m'attends, ça me fait
alors, c'est parti, tu vas vite deviner. Quel artiste a fait cracher la billetterie du Stade de France hier?
Ah, Beyoncé.
Exactement, Beyoncé, qui se produira le 26 mai prochain au Stade de France. Et le 11 juin, très belle date, le 11 juin, au Vélodrome.
Mais il faut expliquer pourquoi ça a craché.
Exactement.
Que la demande de billets a été tellement forte que les sites n'ont pu supporter l'afflux de demandes pour les billets.
Elle a vendu combien de billets?
Début de la billetterie, 10h. À 10h01,
terminé.
Il avait déjà craché.
Ah bon?
Ouais. 269 000 personnes en liste d'attente, rien que sur un seul site de revente de billets.
Et t'es pas venu en France depuis combien de temps?
Des années.
C'est pour ça.
Comme dirait Jérôme.
Il y avait une attente.
Il y avait une attente. Personnellement, j'ai des copines qui ont passé la semaine à refresh leur actualiser pardon leur
ordinateur.
Louis bilingue.
Oui.
Vous avez pas dit.
Ouais ouais. Bilingual. Et une deuxième date a été envisagée mais
Louis.
Une deuxième date a été envisagée mais annulée au Stade de France. Pour quelle raison?
Ah oui,
elle va être injouable, Joël, je le sens.
Non, c'est SNCF qui font leurs travaux ou je sais pas quoi.
Exactement, en fait, c'est pas possible, ce jour-là, il y a des travaux sur la ligne B du RER.
Ah, il y a des travaux sur la ligne B, c'est rare.
Ça fait longtemps.
Et donc, il n'était pas possible d'acheminer à 80 000 personnes.
C'est surtout qu'ils auraient été à pied, ça les aurait triés déjà.
C'est encore la faute de Bruno Poncet, tout ça.
Il n'y avait qu'à ouvrir les places que pour les habitants de Saint-Denis.
Oui.
C'est tout.
T'as ta place, toi?
Non, parce que moi, je vais pas au concert.
Pourquoi? Ah oui, tu sors plus chez toi.
Le dernier concert que j'ai fait, c'était Corneille.
Corneille.
Sans rigoler.
T'as été voir le CID
ou Corneille? C'est que vous avez des pièces de théâtre.
Si, elle était voir le CID. Le CID.
C'était le CID.
Je l'ai vu, Beyoncé, moi.
Comment
je suis allé par curiosité. Par curiosité.
Comme le Stade de France, j'habitais juste à côté du Stade de France. En fait, j'écoutais le concert.
C'est bien.
Ça résonnait sur les murs.
C'est chaud.
Bah si, mais on me laisse pas faire le quiz. Donc
pardon,
je fais la musique. Mais y a pas de souci. Comment s'appelle le groupe qui l'a fait connaître?
Destiny's Child.
Allez.
Say my name.
Groupe féminin, 100% féminin. Beyoncé.
Il y avait que elle qui restait. Il y avait elle et il y avait comment s'appelle la deuxième?
Kelly.
Kelly. Voilà. Et les autres, ça tournait un peu. Il y en avait, ça tournait. C'était 4, 3. Enfin.
Ouais, c'est ça.
Elle connaît bien Thomas aussi.
Ouais. Et alors tu l'as dit,
notre époque.
Comment elle s'appelle la fameuse chanson très connue des Destiny Child?
My name. Attends, je dois dire qu'il y a eu un duo complètement fou avec Stony Bugsy qui avait été fait sur Skyrock et c'était Say My Name.
Exactement.
Donc on doit rendre honneur à notre Stony Bugsy qui
est un
des rappeurs les plus connus français.
Il y a match entre Joël et Thomas là.
On est sur le coup.
Stony Bugsy commence par son roulement de langue. C'était excellent. Ça, c'est les années 90.
Qui va gagner le Queen Bee d'or entre Thomas et Joël? Quelle chanson de Beyoncé ne peut être. Pardon pour celle-là. Quelle chanson de Beyoncé ne peut être chantée que par notre productrice Anaïs Sainz?
Un jeu de mots à la con, je vous dis tout de suite.
Ah ouais.
Oui. Bah oui.
Hold the single ladies.
Ah oui.
À propos des célibataires.
Ouais.
D'accord.
Ouais.
Et on l'entend la chanson.
On l'entend. Vas-y, refais jeune.
Didier, tu veux pas twerker?
Joël, ça va bien se passer. J'attends la suite.
Didier, tu sais, il vit.
Il attend. Arrête d'éveiller.
Il n'y a pas de soirée Beyoncé à Paris Monial.
Moi, quand je vais au Stade de France, il y a le bouclier de Brennus et je vais voir que le bouclier de Brennus.
C'est un morceau de bois, il flotte. Vincent Moscato. Quelle star planétaire partage sa vie?
Jay-Z.
Jay-Z.
Et en avec leur première chanson, ils s'échappent au Mexique.
En 2003, elle collabore.
Ah ouais, oui.
Elle collabore donc avec celui qui deviendra son futur mari sur une chanson qui sera hit numéro 1 aux USA et en Grande-Bretagne. Quel est le titre?
Ah, j'ai plus le titre, mais je.
Me and my girlfriend.
Fou en amour.
C'est ça?
Ouais.
Si vous êtes bilingue. Fou en amour. C'est une traduction dégueulasse, c'est volontaire.
Ah oui, c'est vrai.
Mais ils sont toujours ensemble.
Ah oui.
On est sûr de ça, c'est pas un faux couple.
Ah mais c'est l'étape de la vie.
S'ils divorcent, le PIB américain va chuter.
Ouais, je pense.
Ferait chambre à part parce que Jay-Z ronfle.
Ah ouais, c'est possible. Ah, hein.
Il sort des pieds.
Ouais, c'est un couple ordinaire, non?
Oui, bah bien sûr. Ils sont comme nous.
Ils ont tout, ils donnent rien.
À quelques milliards près.
Avec Jay-Z, ils ont également fait la chanson Déjà Vu.
Oui, tout à fait. Là, elle est dans un champ, elle est en bleu et elle marche.
Exactement.
Dans le clip.
Ouais, ça m'arrive.
J'avoue.
C'est un peu comme Didier. Ouais. Ça m'arrive d'être en bleu et de marcher.
Et alors, donc
ça rapporte moins que quand c'est Beyoncé qui le fait. Mais...
Déjà vu, c'est un mot français.
Oui.
Mais Beyoncé a chanté une chanson française en français dans le texte en 2005 lors de la cérémonie des Oscars. Êtes-vous capable de me dire quelle chanson?
C'est un truc d'Edith Piaf, ça.
Ouais, la vie en rose.
Ouais. Alors,
Il m'a l'amour.
C'est pas Edith Piaf, mais on est dans l'esprit. Mais la chanson est bien plus récente puisque c'est la chanson d'un film.
Oh.
2005, Gérard Jugnot, Jean-Baptiste Monnier.
Ah, les choristes.
Ah, les
choristes.
Elle pense qu'elle chante pas. Non, c'est du phonétique, quoi. C'est My Brand, quoi.
Je trouve que son petit accent donne un charme.
C'est pas mal. Et puis on voit tout de suite l'image de Monnier.
Ouais.
On a encore un petit quiz.
C'est Beyoncé.
Pour Queen Bee, on arrête là, on reste dans le glamour, on va parler de Vincent Moscato.
C'est pas pareil.
On va les écouter dans leur émission, ils reviennent sur votre présence samedi dans quelle époque, les amis, avec cette fameuse archive de toi, Olivier, à 26 ans sur Autoroute FM. On écoute.
On a découvert une belle casserole ce week-end sur France 2, grâce à France 2, une belle casserole sur Olivier Truchot. Il a un polo style rugby à rayures, très joli Olivier. Il a une paire de lunettes, on dirait que c'est un pare-brise sur le nez. On ne le reconnaît absolument pas, c'est cool.
Je pense qu'il aurait dû rester là-bas. C'est là où il était le meilleur.
Il était journaliste.
Il faisait un vrai métier.
Il
essaie d'accrocher quelques podcasts en plus.
Oui, mais les podcasts sur Retour au TFM, ça aurait cartonné.
Les podcasts sur Autoroute FM, très bonne vanne.
Merci,
Elle est bonne. Mais Olivier, après toutes ces bassesses honteuses, je te laisse répondre à ces chenapans, si tu veux, en deux mots.
Non, j'ai rien à dire.
T'as plus rien
parce
à dire.
Parce que c'est tellement bas. Parce que moi, non, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retrouver les archives de Vincent Moscato. Ça existe aussi.
Parce que lui aussi, il a eu des problèmes de voix. Un jour,
il a eu des cheveux, par exemple. Je suis sûr qu'on peut retrouver cheveux.
La légende dit que oui.
Est-ce qu'il a été mince un jour?
Je crois qu'il est négro.
On va fermer notre bureau à clé parce qu'on est en danger là.
On va enquêter, on va retrouver les casseroles de Vincent.
Et d'ailleurs, justement, Didier, toi, t'as un truc à dire à Vincent Moscato, mais attention,
on
n'en
parlera
pas tout de suite. Tu le diras dans le podcast que vous retrouvez tout à l'heure à midi sur rmc.fr et sur l'application RMC. Et depuis hier et comme tous les jours, vous retrouverez un podcast GG inédit en ligne. Ça s'appelle Impossible de la faire taire. Vos GG réagissent à un sujet dans lequel... Je fais n'importe quoi. Un sujet qui n'est pas dans l'émission, ils réagissent
après.
A posteriori.
Et voilà. Vous le retrouvez sur notre site internet rmc.fr.
Vous pouvez déjà écouter Barbara Lefebvre qui réagit aux drag queens.
Voilà.
Qui sont dans les ateliers pour les mômes
ateliers
à
lecture.
Toulouse.
Et allez, pardonnez-moi pour mon élocution.
Dans un instant, avec les GG, avec les grandes gueules, le à vous de choisir. Vous voulez qu'on reparle d'Adrien Quatennens, hué à l'Assemblée nationale hier? Est-ce que c'est mérité? Ou on passe à autre chose? Il serait temps. 32-16 pour venir en discuter avec les grandes gueules.
RMC, jusqu'à midi.
Les grandes gueules.